il est 7h.
On ne peut pas se résoudre dans notre pays, à 13 ou 14 ans, de tomber dans la délinquance et évidemment avoir sa vie fichue parce qu'on a commis un acte absolument irréparable.
Gérald Darmanin annonce l'envoi de 100 policiers et gendarmes supplémentaires dans l'Essonne après les rixes qui ont coûté la vie à deux adolescents. Tout ce que l'on sait sur les enquêtes en cours, c'est dans un instant. Comment aider les restaurateurs, toujours sans date de réouverture dans le Morbihan? Ils peuvent désormais vendre leurs plats dans les rayons des grandes surfaces. Et puis, ça c'est un signe du monde qui change. Les énergies renouvelables ont fourni plus du quart de notre électricité l'an passé. Un niveau jamais atteint jusqu'ici. Après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, on va parler de Bolsonaro, le Trump des tropiques, qui est en pleine forme. Il vire le président de Petrobras, qui a augmenté le prix du diesel, et parachute un général à la tête du géant pétrolier.
Et puis on reste au Brésil dans l'édito sport. Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Moi je vais vous parler du roi du Brésil et du football. Netflix a sorti hier un documentaire sur Pelé, et sa carrière pose des questions très actuelles sur le foot.
Avant de retrouver Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une centaine de policiers et gendarmes sont donc envoyés en renfort après les deux rixes mortels qui ont secoué l'Essonne en moins de 24 heures. Gérald Darmanin l'a annoncé sur place hier soir. Les deux victimes, on le rappelle, avaient tout juste 14 ans. Le ministre de l'Intérieur veut éviter ce qu'il appelle des répliques, car ces affrontements entre bandes auraient augmenté d'un quart l'an passé.
C'est un phénomène très francilien qui va de pair avec la déscolarisation, qui va de pair avec les réseaux sociaux et leur mimétisme. Et puis, on le voit bien, des lignes de transport en commun aussi qui sont parfois le lieu de rencontres. Je crois qu'il faut aussi se dire que la société n'est pas responsable de tout et que les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, d'aller suivre des études ou une formation professionnelle, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Je pense qu'on conviendra tous ensemble que ce n'est pas l'équipement naturel d'un enfant de 13 ans ou de 14 ans dans la rue. On ne peut pas se résoudre dans notre pays, à 13 ou 14 ans, de tomber dans la délinquance et évidemment avoir sa vie fichue parce qu'on a commis un acte absolument irréparable.
Le ministre de l'Intérieur a Dourdan hier soir au micro Europe 1 de Johanna Chabas.
Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Alors il y a l'âge des victimes, on l'a dit, hein, 14 ans, puis il y a celui des auteurs qui sont en garde à vue ce matin. L'un d'entre eux n'a que 13 ans.
Oui, il s'est rendu lui-même hier soir au commissariat de police. Un adolescent de 13 ans, accompagné par sa mère. Il s'est présenté comme étant l'auteur des coups de couteau à Boussy-Saint-Antoine. À Saint-Chéron, celui qui a poignardé mortellement une collégienne a avoué les faits en garde à vue. Lui n'a que 16 ans. 5 autres jeunes ont été interpellés, tous des mineurs. 3 d'entre eux n'ont que 13 ans. À chaque fois, le même scénario. Deux bandes rivales se battent en pleine rue. À Boussy-Saint-Antoine, ils étaient une cinquantaine, venus de deux communes voisines, comme s'ils cherchaient un terrain neutre pour s'affronter, armés de barres de fer, de béquilles et de couteaux. À Saint-Chéron, selon les premiers éléments de l'enquête, une dizaine de jeunes étaient impliqués. Mais là, un groupe est venu en transport en commun depuis Dourdan, juste à côté, pour en découdre avec un autre groupe de Saint-Chéron. Petite commune rurale de 5000 habitants, pas vraiment connue pour ses faits de violence.
Justin, la question justement qu'on se pose, c'est pourquoi? Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de ces affrontements et sur le profil des victimes?
À ce stade, sur les motifs, non. Et c'est bien toute la complexité de ces. On sait que ces combats peuvent parfois trouver leur origine dans des futilités, des provocations par vidéos interposées sur les réseaux sociaux, difficilement repérables. L'enquête devra le déterminer. Quant au profil des victimes, on connaît surtout celui de Lily Bell, la collégienne tuée à Saint-Chéron avant-hier. C'était la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Une adolescente en échec scolaire, renvoyée de plusieurs établissements. Elle faisait même l'objet d'un suivi éducatif par un juge des enfants et venait d'intégrer une classe relais spécialisée dans l'accueil d'élèves en marginalisation scolaire.
Tout ce qu'on pouvait lire sur ces dossiers ce matin. Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Olivier Véran poursuit lui son tour de France des départements qui inquiètent face au Covid. Après Nice en fin de semaine dernière, le ministre de la Santé sera tout à l'heure à Dunkerque dans le Nord.
Où le taux d'incidence est 5 fois supérieur à la moyenne nationale, Olivier Véran pourrait annoncer de nouvelles restrictions. Alors qu'en Bretagne, 9 fois moins touchée, on demande au contraire à pouvoir desserrer les taux. Et dans l'attente, on continue de s'adapter. Les restaurateurs, vous le savez, n'ont toujours pas de perspective. Et bien à Vannes, dans le Morbihan, 4 grandes surfaces leur permettent de vendre leurs plats directement dans les rayons. Et ça marche plutôt bien, comme l'a constaté Charles Guyard.
Bonjour monsieur, garez-vous dans la cour.
Bonjour, très bien.
Alors, les cerises glacières, vous avez le plat d'aujourd'hui.
Chaque matin, pour Richard, c'est la tournée des supermarchés.
Carrefour, on en a livré 15, Hyper U, 10, et là, aujourd'hui, il y en a 8 pour Leclerc.
Faute de pouvoir les servir à table, une vingtaine de restaurateurs vendent désormais leurs repas en grande surface. Après plusieurs contrôles, notamment de température,
c'est parfait, c'est entre 0 et 4.
Richard se charge lui-même de la mise en rayon.
Là, je vais peut-être me mettre là-bas, et là, j'étiquette mes barquettes.
Dans deux grands frigos de ce Leclerc, le choix est digne d'une belle carte.
Bah, j'hésite entre la brandade de poisson et le dos Dieu noir qui me plaît bien aussi.
Cette cliente n'aura que 10 euros par plat à débourser. C'est le prix unique sur lequel les enseignes ne prélèvent aucune marge. Une aubaine pour Laure Ledévédec, patronne du Sixtine.
Ça permet d'avoir évidemment du chiffre d'affaires qui rentre et puis ça fait du bien aussi de se remettre aussi au fourneau.
La veille, elle a préparé 32 poulets curry, quasiment autant que pour un service du midi chez elle. Un plat différent du précédent mais aussi des autres restaurateurs. Solène Petitpas de l'association Cœur de Vannes à l'origine de l'initiative Iveille.
Toutes les semaines, ils me donnent leur plat et s'il y a deux plats identiques, je les contacte pour qu'ils puissent changer le plat ce jour-là.
Et depuis le 9 février, 2500 repas ont ainsi été écoulés par ce biais.
Bon appétit.
Van, Charles Guyard, Europe 1.
7h06 sur Europe 1 et c'est l'information de la nuit. Aux États-Unis, Tiger Woods miraculeusement en vie après un accident de la route.
Il a percuté un arbre, fait plusieurs tonneaux et a dû être extrait de son 4x4, les jambes gravement blessées. Il a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant, disent les policiers qui l'ont secouru. A priori, il n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants.
Et ce sera difficile de revenir de ça à 45 ans passés pour la légende du golf. En basket, en revanche, on a entendu à nouveau le public rugir dans les salles de NBA.
Et certes, les États-Unis ont dépassé hier la barre des 500 000 morts, mais les courbes sont à la baisse. Et pour la première fois depuis plus de 6 mois, Alexis Guilleux, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Les spectateurs ont pu retrouver les gradins à New York cette nuit.
Oui, 2000 chanceux ont obtenu leur ticket, c'est 10% de la capacité du Madison Square Garden. Et devant la salle, avant le match, les supporters en bleu et orange, les couleurs des Knicks, étaient impatients. C'est vraiment formidable d'être de retour, on a attendu si longtemps. C'est comme pour le football en France, ça nous rend fous. Alors pour éviter la propagation du virus, le protocole sanitaire à l'entrée est strict. Test PCR négatif, prise de température, port du masque. Un dispositif que Joshua trouve rassurant. C'est bien toutes ces mesures. Pour profiter du match, moi je veux être certain d'être en sécurité. Sur le parquet, cela n'a pas suffi. Défaite 114 à 106 pour New York, mais les joueurs ont apprécié la présence du public à l'image de Derrick Rose. On ne peut pas oublier l'énergie que le public nous donne quand il est dans la salle. On espère que les choses vont encore s'améliorer pour qu'il y ait davantage de fans dans les tribunes. Et New York poursuit sa réouverture progressive. Nouvelle étape la semaine prochaine avec le retour du public dans les salles de cinéma.
Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
Au Madison Square Garden, un peu d'ambiance, évidemment, vous l'entendez derrière. L'ovation pour un joueur des Knicks, Randall, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, Randall comme le français Rudy Gobert, sélectionné pour le All-Star Game, d'où l'ovation en l'occurrence aux États-Unis. 7h08 sur Europe 1. On va s'arrêter maintenant sur cette révolution en cours dans nos façons de voyager et de consommer notre électricité.
2020, c'est peu de le dire, a tout chamboulé. C'est notre dossier ce matin avec vous, Emmanuel Dutheil et Olivier Samin. Bonjour.
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 Jamais notre électricité n'a été aussi verte en France. On y revient dans un instant avec vous, Olivier. Mais d'abord, on n'a jamais aussi peu bougé et donc jamais aussi peu pris le train. La SNCF publie aujourd'hui ses comptes, 5 milliards d'euros de pertes l'an passé. Et elle mise justement sur son empreinte environnementale pour nous faire remonter à bord. En plus, bien sûr, d'efforts sur les prix. Expliquez-nous, Emmanuel Dutheil.
Eh bien, la SNCF va proposer des prix plus intéressants, même au dernier moment. C'est une vraie révolution. On l'a tous vécu. Hein. Jusque-là, les petits prix n'étaient réservés que pour les premiers qui réservaient. Et plus on achetait tard notre billet, plus le prix du billet était cher. Et souvent, très, très cher. Une refonte totale des tarifs se prépare donc pour juin. Mais c'est très compliqué à mettre sur pied. La SNCF s'attend par ailleurs à perdre 15% de clients professionnels dans ses trains dans les années à venir. Même après la crise, hein, certains vont privilégier les réunions virtuelles. Alors pour compenser, elle va lancer des offres d'abonnement beaucoup plus flexibles qu'aujourd'hui pour les professionnels. Le but, hein, aller chercher notamment les salariés des PME qui ont moins d'abonnements. Et puis la SNCF va jouer la carte verte pour nous faire monter dans ses trains avec un message. Le train, c'est plus écolo. Elle va orienter sa communication sur ce terrain. Elle veut aller chercher les jeunes notamment qui sont très sensibles à ces questions d'écologie. La SNCF compte également développer l'éco-conduite et mise sur ses futurs TGV en 2024 pour réduire d'un tiers ses émissions de carbone.
Emmanuel Dutheil, et justement donc, notre électricité, je vous le disais, n'a jamais été aussi verte. Le renouvelable pèse désormais plus du quart de notre consommation en France. C'est un niveau jamais atteint, Olivier Samin, et qui s'explique là aussi en partie par la crise sanitaire.
Oui, 26,9%, c'est presque 4 points de plus en un an. Ce bond résulte d'abord d'une forte hausse des volumes d'électricité produits par les éoliennes, les panneaux solaires et les barrages hydroélectriques. 121 tétrawattheures au total l'année dernière, niveau historique, atteint en grande partie grâce à l'augmentation de la puissance installée dans les parcs éoliens et solaires, qui, additionnés l'un à l'autre, totalise désormais une capacité de production supérieure à celle des barrages hydroélectriques. Mais si la part des énergies renouvelables n'a jamais été aussi haute dans la consommation d'électricité, c'est aussi parce que cette consommation a fortement diminué l'année dernière, moins 7%. Et là, pas de mystère, c'est l'impact de la pandémie sur l'activité économique. Restaurants et magasins fermés, usines fonctionnant en mode mineur, métro, tram et TGV roulant au ralenti, ce sont autant de mégawattheures qui n'ont pas été utilisées et qui font de cette année 2020 une année à part, y compris en matière énergétique.
Un dossier signé du service économie d'Europe 1, Olivier Samin et Emmanuel Duteil, merci à vous deux.
Au volet judiciaire, Gérard Depardieu nie en bloc les accusations de viol lancées contre lui par une comédienne. On a appris hier qu'il était mis en examen après une plainte déposée en 2018.
Et puis enfin, les victoires de la musique classique sont décernées ce soir.
L'occasion de vous parler de cette initiative de la Philharmonie de Paris. Elle reste, oui, fermée au public, c'est sûr, mais elle accueille cette semaine en stage des dizaines d'enfants de milieux modestes dans le cadre d'un projet pour leur apprendre la musique classique en collectif. C'est tout à fait original et Angèle Châtelier a pu se glisser dans les répétitions.
Un jeune trompettiste d'une dizaine d'années s'échauffe sur le générique d'Harry Potter. Puis les répétitions commencent.
On met les flûtes et les clarinettes ensemble.
Il y a une quinzaine de pupitres, autant de musiciens de l'Orchestre de Paris qui encadrent une soixantaine d'enfants, vraiment débutants ou plus confirmés, comme Youssef, 14 ans. Il joue de l'euphonium, un petit tuba, depuis 5 ans sur son temps libre. C'est sa mère qui l'y a poussé.
Ça m'apporte plein de choses à l'école, par exemple concentration, l'écoute.
La particularité du dispositif démo, c'est que les élèves apprennent leur instrument dans un orchestre, par le collectif, non pas en cours individuel. Joëlle Cousin, violoniste à l'Orchestre de Paris, en a accueilli lorsqu'elle enseignait au conservatoire.
C'était des enfants qui, même s'ils avaient un niveau technique individuel moins élevé, étaient par contre beaucoup plus à l'aise et avaient beaucoup plus de métier. Tenir un tempo, de suivre un chef. C'est des enfants qui ont appris à jouer ensemble, à vivre ensemble, à être ensemble. Ça se sent vraiment.
Les musiciens en herbe, eux, se réunissent jusqu'à la fin de la semaine pour préparer un grand concert prévu le 21 juin dans la grande nef du musée d'Orsay.
Ça fait du bien, l'apprentissage collectif. Donc, je ne sais pas si vous êtes instrumentiste, mon cher Mathieu Béliard, mais en tout cas...
Pas dans le classique. Je veux bien, mais même les répétitions,
ouais.
On a tellement envie de concert
énervé,
que je
hein,
suis même
si
un peu jaloux
bien.
D'Angèle Châtelier, pour tout vous dire. Même assister à des répétitions aujourd'hui, vous savez
ouais.
Quoi je prendrais.
C'est une chance. Reportage signé, Angèle Châtelier à la Philharmonie de Paris.
Vous jouez, vous, Théo Manval ?
Un petit peu.
Oui. De quoi ?
De la batterie.
De la
piano.
On aura l'occasion d'en reparler.
C'est plus la voix.
Un peu plus énervé parfois, ça arrive, mais le matin, non. Merci Théo Manval, il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 et deux adolescents morts en deux jours en Essonne, on en a parlé, ces bandes qui s'affrontent, c'est des jeunes qui veulent en découdre, venus armés de béquilles, d'armes blanches. 74 bandes sont identifiées en France, plus de 350 affrontements en 2020. Alain Bauer est professeur de criminologie, consultant en sécurité. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu. Les voitures made in China débarquent en Europe.
Made in China.
Made in China. Et attention à la vague.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Le président brésilien Bolsonaro parachute un général à la tête de Petrobras, le géant pétrolier.
Oui, on va finir par se dire que le Brésil, c'est comme l'Algérie, comme la Birmanie, non pas un État avec une armée, mais une armée qui possède un État. Depuis que l'ancien capitaine Jair Bolsonaro est au pouvoir, il a imposé une soixantaine d'officiers à la tête de ministères ou d'administrations. Il commande un tiers des entreprises publiques. En général, si j'ose dire, ça ne marche pas plus mal. Dans le cas particulier de Petrobras, le nouveau président est un général qui fut ministre de la Défense. Il n'a aucune expérience dans le domaine du pétrole.
Et à l'annonce de sa nomination, la bourse a calé.
Oui, parce que ce parachutage rappelle de très mauvais souvenirs. Pendant 10 ans, Petrobras a été la tirelire de la classe politique brésilienne. Ce ne sont pas des pots de vin que le Parti des Travailleurs distribuait. C'est le tonneau des Danaïdes qu'il siphonnait. La compagnie pétrolière estime à 40 milliards de dollars l'argent liquide qu'elle a déversé dans les poches des politiciens. Cette corruption massive, a éclaboussé tous les partis, sauf un député excentrique, Jair Bolsonaro. Et c'est parce qu'il se présentait en incorruptible qu'il a été élu. Et c'est parce qu'il fallait tenir Petrobras à l'abri de l'État qu'un économiste, un financier, blanchi sous les harnais, avait été nommé à sa tête. C'est celui-là que le président vient de limoger.
Bolsonaro lui reprochait d'avoir peur du Covid.
Oui, et de se tourner les pouces à la maison en télétravail. Le Covid est meurtrier au Brésil. Il a fait 247 000 morts pour 210 millions d'habitants. Calculé, ça fait qu'il a tué moins qu'en France. Mais les chiffres officiels sont évidemment un peu douteux. Surtout, l'épidémie paralyse l'économie. Et le vrai crime du président de Petrobras, c'est d'avoir augmenté de 35% le prix du diesel. Bolsonaro a réagi comme un gilet jaune. Il défend sa base électorale. Il reste populaire grâce au programme d'aide alimentaire qui tiennent 68 millions de Brésiliens la tête hors de l'eau. Mais cette aide d'urgence ne peut pas durer indéfiniment. Pour l'instant, Bolsonaro fait mentir les bien-pensants qui ont fêté la défaite de Donald Trump en prophétisant que le prochain sur la liste serait son élève, son tifosi, son cousin des tropiques. Mais à terme, il va devoir choisir soit privilégier la base et tenir la ligne populiste, soit se rallier aux pragmatiques, au milieu d'affaires qui exigent des réformes.
Merci Vincent Hervouet. Et puis tiens, écoutez, Jair Bolsonaro, le président du Brésil, justement, qui se justifie. Nous ne nous battons pas avec Petrobras. Nous voulons simplement qu'il soit plus transparent et plus prévisible. Il n'est pas nécessaire de cacher les augmentations ou leur impact sur le prix final du carburant, dit Jair Bolsonaro. Ce matin, c'est sa justification. Je voulais la donner à écouter à nos auditeurs. Et puis on va rester au Brésil ce matin, dans quelques toutes petites secondes, avec ce documentaire qui s'appelle Pelé, disponible sur Netflix depuis hier soir. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin. Juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, l'expression du jour, c'est faire une coquille. Parfois, dans un texte imprimé, une des lettres est à la mauvaise place. Ça s'appelle une coquille. Et vous allez voir, une des explications de ce mot est un peu polissonne. Bon, il faudra peut-être éloigner les orichastes. Enfin, je pense que dans la matinale, tout est possible.
Tout est possible, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h25 sur Europe 1, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le documentaire Pelé est sorti hier sur Netflix. Vous l'avez vu, Virginie, et pour vous, il fait aussi écho au football d'aujourd'hui et à toutes les questions qu'on peut se poser.
Bah, c'est une passion qui déborde le football, hein, et la vie de Pelé en est l'exemple ultime. Dans ce documentaire, on voit arriver le roi avec son déambulateur et on a le cœur qui se serre. Hein. Le temps passe aussi pour les idoles. 1000 vies, 1000 buts, des images en noir et blanc qu'on voit se colorer au fil des Coupes du Monde. Pelé, c'est l'histoire du foot, l'histoire de son pays aussi. Le Brésil est tout pour moi, dit-il. L'inverse est vrai aussi. Hein. On voit l'image du gamin pauvre qui joue au ballon à la sortie de l'école et qui se retrouve embarqué à la Coupe du Monde 1958 à 17 ans. C'est avec Pelé que la légende des footballeurs brésiliens est en partie née. C'est aussi avec lui que le Brésil est entré dans la modernité. Sa joie de jouer transformée en victoire en Suède, une première Coupe du Monde qu'il fait passer de joueur à icône pour toujours. Et dans tout le film, on voit Pelé happé par la foule, étouffé par la gloire, prisonnier de son statut presque. Et ça nous rappelle aussi ce que c'est que d'être un footballeur star. C'est lui le premier qui se retrouve à faire des pubs dans le monde entier parce qu'il peut tout faire vendre et que son image est exploitée à fond. Pelé est aussi bien le symbole de l'émancipation brésilienne que de la prison dorée que peut représenter la gloire. Il a gardé son sourire pendant toute sa carrière, mais la liberté du joueur a laissé la place petit à petit à l'homme sandwich. Pelé, c'est le produit d'une époque qui perdure aujourd'hui.
Mais avec Pelé, on voit aussi le jeu, le football lui-même se transformer.
Ben oui, lui, l'artiste, est devenu une cible pour les équipes adverses. La stratégie, c'était de l'empêcher de marquer à tout prix. Ce qui lui fait dire, lors de la Coupe du Monde 1966, que le football est devenu moche. Les équipes voulaient juste ne plus encaisser de buts. Et cette question de la beauté du jeu, de la protection des artistes sur le terrain, ben, elle est toujours aussi vive aujourd'hui. On se la pose chaque semaine ou presque. Comme on se pose aussi des questions sur les liens entre le football et la politique. La dictature a remplacé l'insouciance démocratique au Brésil dans les années 60 et on a toujours pressé Pelé de donner son avis. On le voit encore gêné aux entournures dans le documentaire. Est-ce qu'il aurait pu tourner le dos au pouvoir autoritaire ? Le sport est-il le moyen de communication ultime pour un régime dictatorial ou est-ce qu'il permet au contraire au peuple de s'émanciper ? Pelé, c'est toutes ces questions fondamentales. Et je vais retenir cette phrase d'un journaliste qui a suivi la Coupe du Monde 1970, la dernière remportée par Pelé. J'étais contre la dictature au Brésil, donc contre la victoire du Brésil. Mais dès que le ballon s'est mis à rouler, bah, j'ai oublié mes principes. Ouais, Pelé, c'est aussi toutes ces contradictions qu'on a au fond de nous, ces interrogations qu'on a encore quand on pense par exemple au prochain mondial au Qatar.
Oui, c'est à réfléchir et à regarder donc sur Netflix ce documentaire Pelé, que vous avez déjà interviewé Virginie Fulpin. Vous faites partie des rares quand même qui peuvent
se targuer d'avoir interrogé Pelé. Oh oui, voilà, en 2014.
Eh ouais, mais je
comprends qu'on soit fiers. 7h27 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern et son mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Attendez, donnez-moi encore deux secondes, je vérifie, un peu comme Virginie le fait parfois, je vérifie si dans mon texte, il n'y a pas des coquilles. Bah, une coquille. D'où vient cette expression?
Il y a une coquille, il y a une erreur, souvent une faute de frappe, une lettre à la place d'une autre. C'est vrai qu'à la base, c'est plutôt une expression qu'on emploie dans l'imprimerie.
C'est exactement l'origine de cette expression. La première fois qu'on en trouve trace, c'est dans un livre qui fait référence, publié en 1723, « La science pratique de l'imprimerie » de Martin-Dominique Fertel, imprimeur de Monseigneur l'évêque de Saint-Omer. Les choses se passaient comme suit. Le typographe alignait des caractères piochés dans une boîte en bois et même en étant très attentif, il arrivait parfois que les lettres ne se retrouvent pas dans les bonnes cases de la boîte.
Oui, on peut le concevoir, mais d'où vient la coquille ?
Alors là, Mathieu, il y a deux légendes qui cohabitent. Première hypothèse, on nettoyait les plaques d'impression avec du blanc d'œuf et malencontreusement, des petits morceaux de coquille restaient collés sur les plaques. Cela faisait bouger les lettres et ça provoquait donc des coquilles.
J'y avais pas pensé.
Deuxième hypothèse, un peu grivoise, je vous préviens. Un jour, au journal officiel, le mot « coquille » devait être écrit. Et la lettre « Q » fut oubliée. Prenez une feuille, un crayon, écrivez « coquille », gommez le « Q » si vous permettez l'expression.
C'est ce qu'il y a dans le potage.
Et
quoi.
Vous verrez apparaître ce qui constitue l'un des éléments du service masculin. Bref, l'histoire a fait grand bruit. Et l'expression « coquille » est restée.
Ce qui est marrant, c'est que pour en arriver là, il faille gommer le cul. Mais bon, ça, on en restera là.
Il ne faut jamais gommer le cul.
À 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre.
Oui, au programme aujourd'hui, le philosophe de la Grèce antique et fondateur du lycée, Aristote, Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme, et Michel Leeb, qui, oui, a été prof de philo avant d'être humoriste. Aujourd'hui, t'as qui en philo ? On réunit trois profs de philo de l'histoire célèbre.
À tout à l'heure, 16h. Et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Dans le même genre, moi j'en ai une aussi. Hein. Moi, dans un de mes premiers articles, au lieu d'écrire ce monsieur à une verve toute méridionale, vous avez compris ce qui est devenu.
Évidemment, une coquille.
La coquille. Bon allez, la coquille sera vite résumée, puisqu'aujourd'hui il n'y en aura pas. Ce sera un temps ensoleillé, après dissipation des brumes et des brouillards, comme dit la formule consacrée. Dans les brouillards, si vous en avez, partiront assez rapidement, vers 9-10 heures. Et les brumes, peut-être un peu plus tard, vers 11 heures. Les brumes se situent essentiellement près de la Manche. Et puis ce sera une journée ensoleillée, avec des températures qui vont s'échelonner entre 16 et 21 degrés. Comme on dit dans notre jargon, j'ai fait court, 16 à La Rochelle, 21 à Clermont-Ferrand, 20 à Paris, 19 à Sedan et ça devient long, j'arrête.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
This one on golf star Tiger Woods. The Los Angeles County Sheriff's Office says that Tiger Woods has been injured.
C'est l'information de la nuit aux États-Unis. La star du golf, Tiger Woods, gravement blessé dans un accident de la route. Interrogation sur la suite de sa carrière. Dans ce journal, la consternation dans l'Essonne alors que deux adolescents de 14 ans ont été tués en deux jours après des rixes entre bandes rivales. Les médecins généralistes dans les starting blocks. Dès demain, ils pourront vous vacciner contre le Covid. Et puis défi relevé, haut la main pour McFly et Carlito. Leur vidéo sur les gestes barrières cumule plus de 10 millions de vues. En d'autres termes, ils pourront bientôt aller tourner à l'Elysée avec Emmanuel Macron.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, le professeur de criminologie Alain Bauer, invité du tête-à-tête Europe Matin pour revenir sur la problématique des affrontements entre bandes. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
De quoi parle-t-on ce matin ?
Eh bien, je vais vous parler d'un rapport du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil des 35 citoyens tirés au sort. Pour parler du vaccin, ils ont remis un premier travail. C'est un vide sidéral.
Et on vous écoutera dans une dizaine de minutes, Nicolas. Juste avant, Nicolas Canteloup qui coach à sa manière, l'invité politique de la matinale aujourd'hui, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tiger Woods, la légende américaine du golf, a donc été victime d'un grave accident de la route à Los Angeles. Il a dû être désincarcéré de son véhicule. Grièvement blessé aux jambes, il vient de subir une lourde opération. Bonjour Benoît Clerc.
Bonjour Sophie, bonjour Mathieu.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Los Angeles. Tiger Woods est passé tout près de la mort.
Oui, c'est vraiment un miraculé, c'est ce qu'a dit en tout cas le lieutenant Carlos Gonzalez, le shérif qui est arrivé le premier sur les lieux de l'accident très tôt ce matin, quelques minutes seulement après que Tiger Woods a perdu le contrôle de son véhicule sur la route côtière qui relie la station balnéaire de Palos Verdes à Los Angeles. Tout s'est passé très vite et sans témoin sur cette descente sinueuse que je connais bien. Elle est réputée dangereuse, la vitesse y est limitée à 60 km/h et de nombreux accidents s'y produisent chaque année. Le véhicule SUV que conduisait le champion, qui semble-t-il roulait à vive allure, a franchi la ligne médiane, percuté un arbre et il a fait ensuite plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser à plus de 150 mètres de la route. Il faudra alors plusieurs dizaines de minutes aux pompiers pour désincarcérer le champion, âgé de 45 ans, qui restait conscient et qui souffre de multiples fractures aux jambes, plus une cheville brisée, plus un coude atteint. Il a été opéré pendant plusieurs heures dans un hôpital voisin spécialisé en traumatologie. Son pronostic vital n'est pas engagé ce soir ici, mais la suite de sa carrière est bien sûr en suspens. Il faudra attendre plusieurs semaines avant de savoir si Tiger, le champion aux innombrables victoires, pourra un jour ou non reprendre le chemin des greens.
Et c'est évidemment la question qui se pose, est-ce la fin de la carrière de Tiger Woods ? Benoît Clerc en ligne de Los Angeles pour Europe 1. Merci Benoît.
Et on l'apprend à l'instant, c'est une bonne nouvelle pour le 15 de France. Pour la deuxième journée consécutive, aucun nouveau cas de Covid au sein du groupe qui doit affronter l'Écosse dimanche. Dans le cadre du tournoi des Six Nations, la décision sur la tenue du match sera annoncée ce soir.
À la une de l'actualité ce matin, ce double drame dans l'Essonne. Deux collégiens de 14 ans poignardés en moins de 24 heures à la suite d'affrontements entre bandes rivales.
La première adolescente lundi à Saint-Chéron, le second hier à Boussy-Saint-Antoine. A priori, aucun lien entre ces deux affaires. À Boussy, une soixantaine de jeunes, certains armés, sont venus en découdre. Romain Collat, le maire de la commune, est encore sous le choc.
Les affrontements, pour ce que j'en sais, concernent des jeunes issus de deux quartiers, de villes limitrophes de ma commune. Moi, j'ai grandi dans la ville dont j'ai le plaisir d'être maire. J'ai 41 ans et ça fait 41 ans qu'existe cette culture d'affrontement entre des jeunes issus de ces deux communes. On ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas. J'ai un sentiment de profonde colère. On a une violence qui se généralise dans notre société, qui doit appeler à la responsabilité de chacun. Les communes, les forces de l'ordre, l'État, mais aussi les individus. Qu'est-ce que fait un gamin de 13 ou 14 ans avec un couteau à se balader dans la rue en plein après-midi, très franchement ? On ne doit pas voir sa vie menacée quand on a 13 ou 14 ans, c'est inadmissible.
Le maire de Boussy-Saint-Antoine avec Laura Taouchanoff, en déplacement dans l'Essonne hier soir, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi d'une centaine de policiers et gendarmes dans le département.
7h34 sur Europe 1, l'épidémie de coronavirus en France et un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée ce matin.
Il sera notamment question du sort de Dunkerque où l'épidémie de coronavirus est particulièrement virulente. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'y rendra cet après-midi.
Pendant ce temps, les médecins généralistes se préparent à vacciner.
Et à partir de demain, ils pourront piquer avec le sérum d'AstraZeneca les personnes de 50 à 64 ans souffrant de comorbidité. 2 millions de Français sont concernés par cette phase de vaccination en ville. Une nouvelle étape, Anne Le Gall, mais qui sera très progressive.
Oui, ça va démarrer doucement car ces médecins vaccinateurs qui sont au nombre de 29 000 volontaires à ce stade ne pourront retirer dans un premier temps qu'un seul flacon du sérum AstraZeneca chacun. Cela correspond à 10 doses qu'ils administreront aux patients qu'ils identifient comme étant les plus à risque de formes graves. Cela fait en moyenne 40 à 50 patients par généraliste, estime le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Il a lui-même identifié les patients concernés à partir de ces fichiers et planifié les vaccinations sur une demi-journée en fin de semaine.
Il faut absolument regrouper les rendez-vous parce qu'en fait, le vaccin ne se garde pas très longtemps à température ambiante, 6 heures si on ne le remet pas au frigo, et ça nécessite donc d'organiser sur une demi-journée les vaccinations à la suite, les unes des autres.
Et cette injection est plutôt bien accueillie, rien à voir avec la défiance qui existait avant Noël, estime ce médecin, qui explique d'ailleurs à ses patients que les effets secondaires, fièvre, parfois courbatures, concernent davantage les jeunes que les 50-60 ans. Le ministère de la Santé a de son côté rappelé hier que ces effets indésirables sont réels, mais minoritaires et bénins.
Les informations d'Anne Le Gall.
Et puis le jackpot pour McFly et Carlito.
Mais 3 jours seulement après avoir publié leur vidéo sur l'importance des gestes barrières, les deux stars de YouTube ont atteint les 10 millions de vues. Ils l'ont appris ensemble hier soir.
Oh là là, ça, là je tremble.
C'est incroyable, ça.
Là, je sais pas si je vais tenir le téléphone.
Ah voilà, c'est une effusion de joie, vous l'entendez. Ce matin, la vidéo dépasse presque les 11 millions de vues. C'était un défi lancé par...
Ils jouent un peu la surprise quand même.
Mais je pense qu'ils le sont vraiment quand même.
Il y avait un suspense très limité à 9 999 000.
C'est ça. C'était donc un défi lancé par Emmanuel Macron qui a contacté l'un des deux youtubeurs peu de temps après ça. Bravo, défi relevé et réussi, écrit-il. Je tiendrai mon engagement. Rendez-vous à l'Elysée. Le message du chef de l'État qui accueillera donc à l'Elysée le tournage du prochain concours d'anecdotes. Ça promet.
Ça promet, oui.
Dans les champs de vaches
ou bien de dindons,
si l'on veut.
McFly et Carlito, les youtubeurs. Merci Sophie Echen, défi relevé, bravo à eux. En tout cas, j'attends de voir la suite maintenant, moi, les tournages à l'Elysée. Merci Sophie, 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, je reçois le commissaire européen en charge du marché intérieur. La stratégie vaccinale européenne, bien sûr. On prépare déjà la deuxième génération de vaccins. Mais aussi la régulation des GAFA. Le français Thierry Breton, invité politique de la matinale. Le tête-à-tête Europe Matin, dans un tout petit instant, avec le professeur de criminologie Alain Bauer, retour ce matin sur le phénomène des bandes, en région parisienne en particulier. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, la crise sanitaire n'en finit pas, mais heureusement, les traditions françaises perdurent. Hommage dans un instant.
À tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h40, l'heure de la touche âme, avec Bertrand Chameroy, comme tous les matins. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu.
Et ce matin, vous teniez à rendre un hommage.
Oui Mathieu, hommage à la France. Ce matin, je le dis, Français, nous sommes formidables. Alors que le pays est au bout du rouleau, que la pandémie bat son plein, qu'on ne voit pas le bout de ce couvre-feu, je rappelle que ça fait quand même 6 ans et demi qu'il a été instauré, enfin en ressenti du moins. Malgré tout ça, et c'est ça qui est beau, la France garde intacte l'une de ses traditions la plus ancestrale, la capacité à s'engueuler sur tous les sujets possibles et imaginables. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment de soucis, on s'en resserre une bonne louche. Ça me rappelle ma mère qui me resservait de la purée alors que j'avais pas encore fini mon assiette. Mais si, prends, allez, non. Et en ce moment, c'est un jour, une polémique. Pour s'occuper, on pourrait faire une bonne paye ou un monopoly, mais on préfère se prendre le chou, car en France, une journée sans polémique n'est pas vraiment une journée. Après l'islamo-gauchisme qui nous a occupé une bonne partie de la semaine dernière, et en attendant le prochain débat sur l'écriture inclusive, nouveau sujet de Discord, comme si le matin, quelqu'un se levait pour faire tourner une roue. Alors, sur quoi on va s'engueuler aujourd'hui? Les fruits à coque? Non! Ah, les menus sans viande à la cantine! Allez, attention, c'est parti, mettez-vous sur la gueule! Et puis alors, ça part au quart de tour. Comment ça? Pas de viande dans les cantines d'école lyonnaise? Mais c'est un scandale, c'est une aberration! Non, monsieur, c'est plus sain pour les enfants et ça ne crée pas de carence. Vous avez lu les études? Pas du tout, c'est du prosélytisme en faveur de la Macédoine de légumes, bande de peine à jouir. Ah, parce que vous serviriez du vin à la cantoche, vous? Non, mais quel rapport? Ouais, c'est ça, ouais.
Et dans sa tête.
Et ça crie, ça s'engueule sur les plateaux, dans les radios, en voiture, sur les réseaux. Ça défoule, tout le monde a l'air content. Dans 2 jours, on s'écharpera sur un autre thème, donc on donne tout. Et comme souvent dans ce genre de situation, il débarque assez rapidement dans la partie les Jean Moulin 2.0. Pas de viande dans les cantines à Lyon. Les idéologues à la noix de coco peuvent tout me prendre, tout. Mais il y a une chose qu'ils ne m'enlèveront jamais, jamais. C'est ma liberté de m'envoyer un bon pavé drumstick. Allez hop, direction marmiton.com. Photo d'entrecôte sauce bernaise sur une ardoise. Et bim, tweet envoyé. Et j'ajoute le lien de « Je préfère manger à la cantine de Carlos ». Ah, on les entend moins, les écolos bobo michoko gaucho. Le steak outragé, le steak brisé, le steak haché, mais le steak instagrammé. Ah, t'as vu Richard? Je l'aurais bien fermé leur claque-merde. Hein. J'aurais peut-être dû mettre une photo de rôti, c'était plus fort. Hein. Voilà, c'est ça la France, se faire des battles de morceaux de barbac piocher sur Google Images. Alors quelle sera la prochaine polémique pour nous occuper? Le burkini ou les gens qui restent à gauche sur l'escalator? Réponse dans notre prochaine roue des polémiques. D'ici là, comme le disait le philosophe Max Pécasse, on se calme et on boit frais.
Et puis une fois de temps en temps, une fois comme ça, pain au chocolat, chocolatine. Juste pour plaisir.
Oh là, voilà. Merci. Je peux partir très vite.
Merci Bertrand Chameroy. Il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Vous êtes sur Europe 1 et nous revenons ce matin sur ce phénomène inquiétant, phénomène des bandes. 2 jeunes tués en 2 jours dans 2 rixes en Essonne, 13 jeunes, des adolescents de 14 ans. Pour la procureure de la République d'Evry, ce phénomène des bandes gangrène le département. On en parle avec le spécialiste en sécurité, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, Alain Bauer est mon invité en direct.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Alain Bauer.
Hello Mr. Béliard, bonjour.
Alors je le disais Alain Bauer, d'abord il y a des morts, il y a le sang qui a coulé, le ministre de l'Intérieur qui annonce des renforts de forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut craindre ce matin des répliques?
Il y a toujours des représailles d'ailleurs, ce qui s'est passé est visiblement le fait d'un événement antérieur qui a provoqué des représailles. Vous savez, la création d'une bande, c'est toujours un processus assez simple, il y a l'implantation sur un territoire, lié simplement à la présence dans la même école, la même salle de sport, bref, une présence que je qualifierais de relativement sédentaire, puis l'appropriation du territoire, qui passe d'ailleurs souvent par le racket et un certain nombre de trafics, puis des expansions territoriales, et puis des lieux où ça se frite, ça se frotte, où on rencontre d'autres bandes, soit par justement la concurrence sur le même territoire, soit la rencontre dans les réseaux de transport, les salles de sport, les centres commerciaux. Et là, il y a provocation et représailles. Donc, c'est toujours un risque.
Alors, quelques chiffres. Hein, au total, 46 bandes ont été identifiées par les autorités dans la capitale et sa proche banlieue. 74 en France, quasiment toutes en Île-de-France. Et j'ajoute ce dernier chiffre, 357 affrontements entre groupes rivaux en 2020. Concrètement, Alain Bauer, qu'est-ce qui est identifié ? Quand on parle de bandes, on parle de systèmes organisés, je veux dire de type mafieux, ou juste de groupes de gamins qui se revendiquent d'une cité, d'un lycée, d'une cage d'escalier ?
Alors d'abord, il faut toujours être prudent. Si le nombre d'agressions est plus ou moins bien enregistré dès lors qu'il y a une plainte, une intervention des services de police ou surtout une intervention à caractère médical, tout le reste relève de l'approximation et de critères extraordinairement évolutifs. Il y a des centaines de bandes de gamins, comme vous le dites, sur le territoire, car toute réunion de plus de deux ou trois gamin crée les conditions de la bande. Ensuite, c'est le processus d'appropriation du territoire, de contrôle du territoire, d'armement sur le territoire et puis de provocation et de sanctions. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelques centaines de bandes structurées sur le territoire et probablement, effectivement, le chiffre parisien est-il juste ? Le chiffre de l'Île-de-France est-il très sous-estimé ?
Sous-estimé.
Si vous regardez toutes les grandes agglomérations, vous découvrirez sans doute, en y regardant d'un peu plus près, au microscope plus qu'au télescope, un peu plus de personnes que cela. Mais ensuite, la violence des bandes est un autre sujet.
Donc oui, parce qu'Alain Bauer, je reprends pour nos auditeurs. Je reprends pour nos auditeurs. On parle d'armes blanches, on parle de béquilles, on parle de mobilier urbain projeté. On est venu, dans ces deux affaires, hein, on est venu pour en découdre. Ce n'est pas une situation qui dégénère. Non, on vient au contact pour faire mal, peut-être pour tuer même.
Oui, bien sûr, c'est l'aspect provocation-représailles. C'est une tradition, mais si vous regardez le film Casque d'or, vous découvrez que c'est un documentaire et nous aurions pu avoir le même débat avec probablement un gramophone plutôt qu'une radio sur les Apaches dans les années 1900 à Paris avec les mêmes équipements. Je précise que dès lors que le niveau de gravité s'élève, on est plutôt à la Kalachnikov et à l'arme à feu. Là, on est plutôt, aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans de la violence de basse intensité, mais avec de graves conséquences, notamment mortelles.
Alors, je comprends bien en vous écoutant, et je me résume simplement la moitié de l'interview Alain Bauer, de bien comprendre que les chiffres qu'on donne sont probablement sous-estimés, parce qu'on ne va pas comptabiliser si l'échange, j'ai bien compris, n'avait pas de conséquences graves en termes de blessures, voire de mortalité. Mais vous faites aussi cette comparaison. Alors, vous avez parlé des Apaches, on aurait pu parler des blousons noirs. Ces phénomènes de bandes, partout en France d'ailleurs, c'est pas du tout nouveau. Qu'est-ce qui est différent là ?
Absolument rien. Ce qui est nouveau, c'est que ça se voit. C'est que ça se voit à cause des réseaux sociaux, c'est que ça se voit à cause de la télévision. Mais si vous prenez le Petit Parisien ou le Petit Journal, des éditions papier qui tiraient à plusieurs millions d'exemplaires avec une vingtaine d'éditions par jour, vous découvririez avec stupéfaction que ça faisait la une de la quasi-totalité des éditions. Donc ces affrontements sont traditionnels, mais jamais ils n'ont été aussi proches en termes de la proximité de l'image. Et c'est l'image qui crée l'émotion et surtout l'image de la mortalité. Mais cette mortalité elle-même s'est effondrée pendant plusieurs dizaines d'années avant de remonter sensiblement, il faut bien le dire, depuis une dizaine d'années seulement.
Depuis une dizaine d'années seulement. Et qu'est-ce qui a changé selon vous ? Les réseaux ?
La perte de la confiance dans les institutions, la perte de contrôle, l'incapacité des institutions entre trop et rien à savoir comment traiter notamment les mineurs et les adolescents, une violence sociale plutôt généralisée qu'on trouve sur beaucoup d'autres sujets, y compris qu'on a pu voir lors des événements de type gilet jaune. Donc nous sommes revenus dans une société où la violence est un mode de règlement des conflits, alors que la médiation s'était imposée entre l'après-guerre et les années 90-2000.
Un dernier mot, Alain Bauer, je ne reprends pas tous les profils, évidemment, mais dans le cas de Saint-Chéron, par exemple, un des mineurs entendus a admis son implication dans le coup mortel. Il est connu des autorités. La jeune fille qui a été tuée était connue des services de gendarmerie, suivie par un juge des enfants. Ça veut dire quoi ? Qu'on a des profils difficiles, qu'on sait que ça va éclater, mais pas où et quand, et qu'on attend ?
Bon, c'est-à-dire qu'entre rien et trop, comme je l'ai indiqué, on ne sait pas très bien faire, qu'on a toujours l'impression qu'il ne faut pas en faire plus que nécessaire, qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il ne faut pas s'occuper. D'ailleurs, on n'arrive plus à donner des noms aux choses, aux phénomènes ou aux crimes. Et de ce fait, on est en retrait et puis on intervient dans l'événement. Nous sommes très réactifs, très peu proactifs. C'est l'un des drames du système français.
Merci beaucoup Alain Bauer. Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, il était en direct avec nous, Alain Bauer, ce matin, 7h50 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique de Nicolas Bétou, c'est dans une minute avant de retrouver Nicolas Canteloup, comme tous les matins avant 8h. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Olivier Véran a assisté hier à la présentation des recommandations du Conseil économique, social et environnemental sur les vaccins.
Oui, et je dois avouer qu'il m'arrive d'admirer le courage qu'il faut parfois pour être ministre. Que, entre une urgence à Nice et une alerte à Dunkerque, le ministre de la Santé ait dû perdre son temps à subir les navrantes banalités égrenées par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, eh bien ça me stupéfie. Parce que pour trouver plus inconsistant comme recommandation, je vous assure, il faut creuser profond.
Le CESE a fait 7 séries de recommandations. Aucune, Nicolas Bétou, aucune ne trouve grâce à vos yeux.
Mais si, toutes. Elles sont toutes excellentes, tellement elles sont évidentes. Tenez, il faut améliorer la communication sur la vaccination et diffuser des messages positifs. Ben oui, il faut fabriquer des vaccins sous licence. Ah bon ? Piloter tout ça au niveau des territoires. Mais oui, personne n'y avait pensé. Plus audacieux et créatif encore, il faut mobiliser les médecins et les pharmaciens. Oui, et il faut optimiser tout ça en intégrant, tenez-vous bien, les contraintes de la chaîne logistique. Ça secoue, non ? Franchement, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un rapport de plus pour ça ?
Et qui sont les auteurs de ce travail ?
Ah ben, ils se sont mis à plusieurs. Le CESE avait été saisi il y a quelques mois par le Premier ministre sur l'accompagnement de la stratégie vaccinale. Bon, comme il n'a aucune compétence en la matière, le CESE a pioché dans ses vieux réflexes et s'est empressé de nommer une commission temporaire, pas davantage compétente bien sûr. Cette sous-commission a donc auditionné le collectif de 35 citoyens tirés au sort qui a, notez-le bien, exactement la même incompétence et la même feuille de route sur l'accompagnement de la stratégie vaccinale. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on était sans aucun signe de vie de ce conseil citoyen depuis l'annonce de sa création en novembre dernier. Bon, ben voilà, ils sont vivants.
Et je suppose qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle ?
Ben, ils ne servent à rien pour l'instant. Ils se sont réunis 2 fois 3 jours et ce qu'on peut deviner de leurs travaux au travers de quelques témoignages et des recommandations dévoilées au CESE, c'est du niveau de ce dont tous les médias, tous les réseaux sociaux, tous les Français débattent en permanence depuis des mois. Et je rappelle que, à côté de la Haute Autorité de Santé, du Haut Conseil de Santé Publique, du Comité National d'Éthique, ont été créés depuis un an un Conseil scientifique Covid, un comité scientifique sur les vaccins, un conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, sans compter notre fameux conseil des 35 citoyens sur la vaccination. Mais comment croire qu'il n'y a pas une énorme perte de temps dans tous ces comités théodules qui planchent sur les mêmes sujets avec les mêmes infos ? Et comment ne pas espérer qu'on trouvera un jour un vaccin contre cette épidémie bureaucratique galopante.
Merci Nicolas Bétou. Nicolas chez Kafka ce matin. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe. 7h55, nous retrouvons comme tous les jours Nicolas Bétou qui conseille...
Non
à Nicolas, je dis Bétou, Canteloup, pardon, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, je reçois à 8h15 Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Thierry Breton qui est monsieur vaccin européen et c'est Jean Castex qui est venu lui dire un mot. On est ravis, oui, car on n'entendait plus depuis 15 jours.
Oui, bonjour monsieur Béliard, monsieur Bétou, on se crie du cœur quand il dit non, non, surtout pas. J'aime quand il parle monsieur Bétou, il a dit, ça me stupéfie, ça vous étonna, ça vous surprendu. Oh, il peut tout faire, M. Bétou. Oui, donc effectivement, vous l'avez noté, M. Béliard, ça fait 2 semaines que je n'ai rien dit, et ça correspond aussi à la période où je n'ai pas dit de conneries. C'est corrélé.
Vous voulez dire un mot à Thierry Breton, qui est M. Vaccin en Europe, hein ?
Oui, c'est très courageux d'être M. Vassin en Europe. Moi, voyez-vous, je suis à peine M. Vassin France, je n'y arrive déjà pas. Voyez, mais on s'adapte. Maintenant, on est sur une stratégie nationale, région par région, ville par ville. Et désormais, on recommande attendez, j'ai noté ça sur un papier. Bien, Merlousson, mes lunettes, mon papier. Oui, bon, on recommande le port du masque. Voilà, le port du masque.
Ça fait un an, qu'on parle tous les jours du port du masque.
Oui, peut-être à la capitale. Mais en province, à Dunkerque, à Nice, vous savez, c'est pas tout à fait le même calendrier. Là-bas, on est encore en 2020, en 2019. On est toujours un peu en retard en province par rapport à Paris. Attention, hein, je le dis bien sûr sans mépris pour la province. Je vais vous faire une confidence, j'achète tous mes costumes en province.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours juste avant 8h. À 8h15, Thierry Breton et Nicolas Canteloup à nouveau pour la revue de presse à 9h moins le quart. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Il fait beau, il fera beau après les brumes, les brouillards que je ne vais pas détailler puisqu'ils sont en train de se disperser. Brouillards dans le delta du Rhône, sur la côte de la Manche sont des brumes. Eh bien, nous aurons du beau temps avec malheureusement encore un petit peu de vent. Le vent marin sévit toujours sur l'Aude et sur l'Hérault. Les températures, 16 à La Rochelle, 17 à Marseille, 18 à Poitiers, 19 à Toul et Strasbourg, 20 degrés à Paris, Bordeaux et Lyon, 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Montluçon. C'est génial. Et si vous sentez en vous un invincible été, surtout ne vous précipitez pas, le froid n'est pas très loin quand même.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer.